Bonjour tout le monde, on m'a demandé de vous entretenir de Rosh Hashanah, et donc je m'exécute, dans le sens positif, évidemment. Bon. La fête de Rosh Hashanah, c'est une fête. Et toutes les fêtes dont la Torah parle, qui sont mentionnées dans la Torah, viennent commémorer un événement historique qui est la justification de la fête. Banal, non? Par exemple, la fête de Pessah, c'est parce que nous sommes sortis d'Égypte. Le septième jour de Pessah, c'est parce que nous avons passé la mer Rouge. La fête de Shavuot, c'est parce que Dieu nous a donné la Torah. Donc, Hanouka, c'est parce que nous nous sommes libérés de la domination grecque. Pourim, c'est parce que nous avons échappé à l'extermination. Yom Ha'atzmaout, c'est parce que nous sommes arrivés à l'indépendance politique. Et tant d'autres choses. Donc, il y a toujours un événement historique d'ordre national qui est la justification de la fête. Ce qui nous amène directement à la question de savoir quelle est la justification, quel est l'événement historique qui est à la base de la fête de Rosh Hashanah. Hein? La fin de l'esclavage. Où est-ce que tu as tiré ça? Hein? Qui vous l'a dit? Aben Arosh, évidemment. Où est-ce qu'il a été chipé ça? Dans un texte de Maseret Rosh Hashanah. Mais pourquoi ne pas prendre la création du monde comme référence? Hein? On a l'habitude de dire c'est la création du monde. Oui. Quoi? J'ai rien compris à ce que tu dis.
La création de l'homme, alors pas la création.
Une seconde, j'aimerais comprendre ce que lui me dit.
Non, parce que moi j'ai entendu dire
que
en fait
le
Et
alors? Le maître. C'est-à-dire que, étant donné que la création du monde est un événement difficile à comprendre, ça ne peut pas être le sujet d'une fête. C'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est ça que tu dis? Non, au moins quand tu dis quelque chose, tu comprends ce que tu veux. Mais non, c'est pas. Alors, est-ce que. C'est pas peut-être. Est-ce que c'est ça que tu as dit? J'ai mieux dit que toi ce que tu voulais dire. D'accord. Bon, d'accord, j'ai compris. Maintenant, oui. Oui, oui. En fait, ça se réfère à deux réponses différentes. Si tu dis que Rosh Hashanah, c'est pour la création du monde, alors tu dis qu'on ne peut pas faire de fête pour quelque chose d'inaccessible. Si tu dis que c'est la création de l'homme, on ne va quand même pas faire une fête pour un seul homme. D'accord? En fait, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a quand même des points à préciser. Tout d'abord, il y a dans le calendrier juif un jour qui est consacré à la création du monde. C'est lequel? Le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour dans le calendrier juif qui commémore la création du monde. Donc, c'est pas, même si c'est inaccessible, on fait quand même une fête, mais cette fête, ce n'est pas à Rosh Hashanah, c'est toutes les semaines. D'accord? Deuxièmement, pour ce qui est de la création du monde ou de l'homme, c'est une controverse chez les Chachamim. Pour savoir quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce qu'il a été créé en Tishri ou en Nissan? C'est, si on suit l'opinion de Rabbi Eliezer dans la Gemara de Rosh Hashanah, alors le monde a été créé en Tishri. Et donc, on peut se dire que le jour de Rosh Hashanah, Rabbi Eliezer pensait à la création du monde. Mais, selon l'opinion de Rabbi Yehoshua, eh bien, le monde a été créé en Nissan. Or, nous savons avec certitude que Rabbi Yehoshua faisait la fête de Rosh Hashanah. Et si je rencontrais Rabbi Yehoshua le jour de Rosh Hashanah et je lui disais « Rabbi, pourquoi est-ce que vous faites la fête aujourd'hui ?» Il ne me répondrait certainement pas à cause de la création du monde, étant donné que d'après lui, le monde n'a pas été créé en Tishri, mais en Nissan. Jusque-là, vous suivez ? Donc, nous sommes bien obligés de nous référer à un événement, qui est un événement national, comme vous l'a dit le Rav Ben Arosh, qui est le fait que la servitude a cessé chez nos ancêtres en Égypte. Jusque-là, vous suivez ? Bon. Et c'est la raison pour laquelle, dans les prières de Rosh Hashanah, on rajoute une très belle expression, « Zecher l'Itziat Mitzrayim », en souvenir de la sortie d'Égypte. Oui ? C'est tout à fait le contraire de Pessah. À Pessah, c'est le jour de l'indépendance nationale, c'est-à-dire que c'est là que la domination politique du pharaon a cessé. Et donc nous sommes devenus une nation indépendante. Ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, c'est que nous avons cessé la servitude individuelle. Chacun d'entre nous a cessé de travailler. Comme m'a dit une fois un de mes amis, vous autres, vous parlez tout le temps, vous les rabbins, vous parlez tout le temps de la Géoula, la Géoula, la Géoula. D'accord, mais quand est-ce qu'on arrête de bosser ? Ce qui est quand même plus important. Et donc, on peut dire que cet événement est très... qui était le premier de la série des événements de la sortie d'Égypte, inaugure toute la série de la sortie d'Égypte. Conclusion, Rosh Hashanah, c'est la fête de la liberté. Si on continue, alors, et Kippour, c'est la fête de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à qui pour l'événement historique ? Hein ? Tout Béav, c'est à Kippour ? Tout Béav tombe à Kippour ? C'est ce que tu dis. Si tu dis que tout Béav tombe à Kippour, hein ? Oui, mais tout Béav, c'est le 15 Av. Kippour, c'est le 10 Tishri. Ce que tu viens de me dire, c'est que le 15 Av tombe le 10 Tishri. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ça correspond à peu près à l'expression « chercher midi à 14 heures ». Donc je ne peux pas, avec sérénité, accepter ton interprétation. Elle est mauvaise, évidemment. Oui. Les jeunes filles sortaient dans les champs pour danser, et ça se faisait à deux dates différentes. Ça se faisait le 15 Av, et ça se faisait aussi le 10 Tishri. Ça, c'est vrai. Mais je demande, mais ça, c'est la manière dont Kippour était célébré. Mais j'aimerais comprendre l'institution de Kippour. Kippour, pourquoi ? T'as compris la question ? C'est-à-dire, quelle est la raison historique, quel est l'événement historique qui a justifié l'institution de Kippour ? Oui. Il a pardonné au peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait pour prouver son pardon ? Il a donné les deuxièmes tables de la loi. D'accord ? Donc, le jour de Kippour, c'est le jour où nous avons reçu la Torah. Donc, si je conclue, ça veut dire que les Juifs ont une fête de la liberté et une fête de recevoir la Torah, c'est Rosh Hashanah et Kippour. C'est bien clair ? Bon. Oui ? Pessah, c'est la fête de la libération d'Égypte. Très bonne question. La réponse, c'est qu'à Pessah, nous avons été libérés sur le plan politique. C'est-à-dire, nous avons accédé à l'indépendance nationale et nous avons cessé d'être dominés par Pharaon. Tandis que ce qui s'est passé à Rosh Hashanah, c'est la fin du labeur. Nous avons cessé la servitude. D'accord ? Comme a dit un de mes amis, vous autres les rabbins, vous parlez tout le temps de Géoula, 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 mais quand est-ce qu'on arrête de bosser ? Et donc, on peut dire qu'il y a ici une différence. Cesser le travail, c'était à Rosh Hashanah, et la sortie politique, l'indépendance politique, c'était à Pessah. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en français un goût de déjà-vu. N'est-ce pas ? étant donné que cette question a été posée il y a à peu près 6 minutes par une autre personne dans la salle et qu'elle a reçu la même réponse. D'accord ? Pourquoi est-ce que j'ai répondu de la même manière ? Parce que c'est la même question. Oui. Oui, non, c'est pas le don, c'est recevoir la Torah. Non, à Shavuot, la Torah a été donnée, elle n'a pas été reçue. C'est pas du tout la même chose. Si je peux te donner, tu n'as pas reçu. Je t'envoie une lettre à la poste. Moi, je te l'ai envoyée, tu ne l'as pas encore reçue. D'accord ? Donc, en fait, la fête de Shavuot, en une certaine manière, c'est un échec. Ça n'a pas vraiment marché, on n'a pas reçu la Torah. Il a fallu attendre Kippour. Kippour, ça a marché. C'est là qu'on a été sauvé, c'est le sauve Kippour. Et donc, quelque chose de très important dans cette période. Maintenant, la fête de Rosh Hashanah, elle commémore donc le premier des événements de la sortie d'Égypte. Avant même le renvoi par le Pharaon, on avait déjà cessé de travailler. Mais Kippour, ça commémore quel événement ? L'événement, le dernier des événements de la sortie d'Égypte, qui est d'avoir reçu la Torah. Question mathématique, pour ceux qui sont forts en maths. Combien de temps s'est passé entre l'événement que nous rappelons à Rosh Hashanah et l'événement que nous rappelons à Kippour? Combien de temps s'est passé? Hein? Un an et 10 jours. Vous voyez donc que Daniel est très fort en mathématiques. Il s'est passé 1 an et 10 jours entre l'événement de Rosh Hashanah et l'événement de Kippour. Pourquoi tu regardes comme ça? C'est pas clair ce qu'il dit? Ben c'est très simple. À Rosh Hashanah, on a cessé de travailler. 6 mois et demi plus tard, on sort d'Égypte. D'accord ? Après, 50 jours après, la Torah nous est donnée. On entend les 10 commandements au Sinaï. D'accord ? Après, les tables de la loi sont brisées. Après, Moshe remonte, il ramène les tables de la loi, c'est Kippour. Combien de temps s'est passé entre le Rosh Hashanah et le Kippour en question ? 1 an et 10 jours. D'accord ? C'est clair maintenant ? D'accord. Donc, même ceux qui n'ont pas un très bon niveau en maths, je pense, peuvent comprendre ce qui vient d'être dit. Et donc, ça répond à un problème. À Rosh Hashanah, on fait des prières pour qu'il y ait abondance dans l'année qui commence. Vous êtes bien d'accord avec moi ? C'est-à-dire, on prie pour le futur. À Kippour, on demande l'expiation des péchés de quelle année ? De l'année passée. Bizarre. Moi, si j'avais dû décider, moi, de l'ordre des fêtes, j'aurais d'abord fait Kippour, après Rosh Hashanah. D'abord qu'on en finisse avec les péchés de l'année dernière, on nettoie le terrain, et puis alors là, on peut commencer la nouvelle année, demander la bénédiction. N'est-ce pas ? Et tandis que, dans la Torah, c'est le contraire. On commence la nouvelle année, et puis brusquement, après 10 jours, on se dit, oh, au fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal l'année dernière? Ça tient pas la route. Maintenant, si on comprend l'arrière-plan historique, tout s'explique. Puisqu'à Rosh Hashanah, on a commencé, et qu'à Kippour, on a fini, donc Rosh Hashanah, c'est le début, et Kippour, c'est la fin. Bon, c'est très joli comme explication historique, mais ça explique pas pourquoi est-ce que l'histoire s'est faite comme ça. Non, non, c'est très simple. Les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, à quelle année ils appartiennent ? À l'année qui commence ou à l'année qui finit ? Ça, tu dis ça, que c'est qu'il appartient à l'année qui commence, parce que tu te tiens à Rosh Hashanah. Mais si tu es à Kippour, et tu te dis les 10 jours passés, ils appartiennent à quelle année ? L'année qui passe. Donc, j'ai toujours pas de réponse. À quelle année appartiennent ces 10 jours ? Passé. Et à Rosh Hashanah, on est sur l'année qui commence. Alors j'aimerais comprendre, les 10 jours en question, ils appartiennent à quelle année ? Ils sont en dehors du temps. Ils appartiennent aux 2 années, donc ils appartiennent à aucune année, donc ils sont en dehors du temps. Ça veut dire que l'année, en vérité, a 355 jours. D'ailleurs, une année en hébreu se dit comment ? Shana. En guématria, c'est combien ? 355, n'est-ce pas ? Et l'année lunaire a effectivement 355 jours. Donc les 10 jours en plus sont en dehors de l'année. Et bon, si vous aimez la science-fiction, vous aimeriez faire un voyage dans le temps, n'est-ce pas ? Ouais, ça serait sympa, d'accord? Une machine à remonter le temps, etc. Je reviens au temps préhistorique, j'arrange tout, etc. Mais nous avons une machine comme ça. Cette machine s'appelle la Teshuva. Dans la Teshuva, je reviens en arrière à des événements, à des actions que j'ai faites dans le passé, et je les répare. Comment est-ce que je peux réparer quelque chose qui est passé? Il faut que je revienne en arrière dans le temps, au moment où j'ai fait le mal, et je change mon intention, et je fais donc le tikkun. Or, il est très utile de faire ça dans ce moment de l'année qui est en dehors du temps. C'est là qu'on peut faire des voyages dans le temps plus faciles. C'est ça qu'on fait teshuva à ce moment-là. Pendant les 10 jours. Kippour, c'est le sommet de ça. D'accord? Il est toujours bon de faire teshuva. On peut faire teshuva à tout moment dans l'année. Mais c'est plus facile dans ces jours-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux aider à quelque chose? Oui. Ils ne sont pas dans le temps. Étant donné que tu as 10 jours, que tu ne sais pas où les placer, s'ils appartiennent à l'année qui commence ou à l'année qui passe, ça veut dire qu'ils n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre. Donc ce sont des jours qui sont en dehors du temps. Nous avons déjà compris que le premier de ces 10 jours, le jour de Rosh Hashanah, est un jour de liberté. Mais essayons d'aller un peu plus loin. Il y a dans ces 10 jours un autre jour qui lui aussi est un jour de liberté. C'est le jour de Kippour de l'année du Yovel. Vous savez ce que c'est que le Yovel? C'est le jubilé. D'où ça vient le mot jubilé? Ben, ça vient de Yovel en hébreu. D'accord? C'est donc un jour de joie, c'est pour ça qu'on y jubile. Et donc, dans le jour de Kippour de l'année du jubilé, tous les 50 ans, on libère les esclaves. N'est-ce pas? Et on commence une année que la Torah appelle Shnatadror, l'année de la liberté. Donc on voit que non seulement Rosh Hashanah a un caractère de liberté, mais le jour de Kippour, une fois tous les 50 ans, se révèle être un jour de liberté lui aussi. Jusqu'à présent, vous suivez. Maintenant, je voudrais poser une question de Halakha, toute bête. Oui? Quoi? J'ai rien compris. Un rachis? Ah, une hiérarchie. Ah, il est évident que c'est le Kippour du Yovel qui est le plus fort. Mais on va le prouver tout à l'heure. Oui. Hein? Oui. Tous les 50 ans. Oui. Mais ça, quand il y a liberté, une fois tous les 50 ans, c'est une vraie liberté. Oui?
Ça fonctionne aussi bien pour les hommes, mais aussi pour les territoires.
Pour les terres. Oui, les terres reviennent à leur propriétaire antérieur. Maintenant, pour bien comprendre ce que nous disons, je voudrais poser plusieurs questions. Tout d'abord, quand arrive l'année du jubilé? Alors, on libère les esclaves après le jour de Kippour, n'est-ce pas? Le jour de Kippour, on libère les esclaves. Mais l'année a déjà commencé depuis Rosh Hashanah. Que font les esclaves pendant les 10 jours de Rosh Hashanah à Kippour? Ils se préparent comment? Hein? Ils font des festins. D'accord? La Guémara nous dit, ils ne travaillent pas, mais font des festins. Ils mangent et ils boivent avec des couronnes sur leur tête. Des couronnes de quoi? De laurier. C'est vachement sympa. Donc ils font, c'est la bombance pendant 10 jours. Mais ce qui me préoccupe, mais qui c'est qui va payer tout ça? Les maîtres doivent payer 10 jours de festin. Ah bon? Hein? Quoi? Eh bien, de la domination de leur maître. Quelqu'un a des esclaves. Il les a achetés. D'accord ? Arrive le Yovel, il doit les libérer. C'est clair pour l'instant ? Bon. Maintenant, quand est-ce qu'il les libère ? Hein ? Le Yovel, c'est la 50e année. Tous les 50 ans, il y a une année qu'on appelle l'année de la liberté, ou l'année du jubilé, ou du Yovel. Et lorsqu'arrive le jour de Kippour dans l'année du Yovel, on libère les esclaves. Non, 49, c'est un peu moins que 50. Là, c'est 50. C'est-à-dire 49 plus 1. D'accord ? T'as compris ? Non, qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Non, c'est très grave. Parce que le but d'un cours, c'est que l'élève comprenne. Si l'élève n'a pas compris, le cours est raté. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Hein ? Non, non, c'est très grave, justement. Mon intention est que tout élève comprenne. Donc, si quelque chose n'est pas clair, c'est ton devoir de demander des éclaircissements jusqu'à ce que ça soit clair. Avec quoi ? Eh bien, c'est très simple. Le jour de quand arrive le jour de Kippour de la 50e année, on libère les esclaves. D'accord ? C'est ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec Rosh Hashanah, ça a voir avec Kippour. C'est clair maintenant ? Qu'est-ce qui n'est pas clair ? C'est clair, tu vois ? Génial. Bon. Donc, je reviens à mon histoire de liberté et donc de ce que font les esclaves pendant les 10 jours en question. C'est-à-dire que la 50e année arrive. Les esclaves ne sont pas libérés, mais ils ne travaillent pas. Et ils passent leur temps à faire des festins pendant 10 jours, qui sont payés par le maître. Jusque-là, c'est clair ? C'est clair ou pas ? Bon. Maintenant, tant que n'est pas arrivé Rosh Hashanah, les esclaves travaillent. Une fois passé Kippour, ils sont formellement libres, mais en vérité, ils travaillent. Pourquoi ? Il faut bien vivre. Il faut bien gagner sa vie. Qu'est-ce que je vais manger si je ne travaille pas ? Donc on peut dire, même en état de liberté, il y a une certaine servitude que nous connaissons tous, puisque nous devons travailler pour vivre. Pendant les 10 jours en question, ce sont les seuls 10 jours de la vie où on est totalement libre. Ni on ne travaille pour son maître, ni on ne travaille pour s'alimenter. Donc c'est la liberté totale. Donc vous commencez à comprendre que non seulement Rosh Hashanah est un jour de liberté et Kippour un jour de liberté, mais en vérité toute cette période est une période de liberté. Oui ? Nahon, c'est vrai, c'est que pour les esclaves et c'est que à l'époque où le Yovel fonctionne. Mais peu importe, le fait qu'il y ait un groupe humain qui vit cette liberté à ce moment-là est pour nous un symptôme. C'est un symptôme pour l'essence de cette période. D'accord ? Eh oh, t'as compris ce que j'ai dit ? Oui, bon. Non, c'est important que je sache. Le feedback est une chose très importante pour les enseignants. Les enseignants sont très malheureux quand ils ne savent pas si l'assistance a compris ou pas. Donc la réaction de l'assistance est importante. Oui, hein? Non, j'explique simplement les secrets du métier. Maintenant, revenons à notre histoire. Si c'est vrai que c'est un temps de liberté, alors, avant ça, autre question. Quelle est la mitzvah de Rosh Hashanah ? Écoutez le chauffard. Ah ah ! Où est-ce que vous avez été chercher tout ça ? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah ? C'est écrit nulle part dans la Torah. Alors pourquoi est-ce que nous sonnons du chauffard à Rosh Hashanah ? Ishmoa kol chauffard. C'est un verset dans la Torah, ça ? Non. C'est une bénédiction, puisqu'il y a la mitzvah d'écouter le chauffard, alors il y a une bénédiction sur l'écoute du chauffard. Mais ce que j'aimerais savoir, d'où est-ce que ça vient qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah ? Oui ? Je cherche une source halachique tirée d'un verset de la Torah qui m'explique qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah. C'est quand même pas si difficile, c'est pas sorcier ce que je demande. Vous êtes là pour l'apprendre, c'est la pure vérité. Il est écrit dans la Torah, Yom Teruah Yelachem, ce sera pour vous un jour de retentissement. Teruah. Teruah, ça peut être le retentissement d'une corne ou bien d'une trompette. Ça peut être également quelque chose qu'on exprime par la voix. Hein ? De retentissement, de sonnerie. Mais ce n'est pas écrit dans la Torah que ça doit se faire par un chauffard. Mais il y a dans la Torah une autre mitzvah de sonner du shofar qui est écrite en toutes lettres. C'est lors du Kippour du Yovel. Le jour de Kippour de l'année du Yovel, la Torah dit en toutes lettres: Ve'avartem shofar teruah b'chodesh ha'shevi'i be'asor l'chodesh b'yom ha'kippurim ta'aviru shofar b'chol artzechem. Et vous ferez passer un shofar de retentissement lors du septième mois, le dixième jour du mois, le jour de l'expiation, vous ferez passer un shofar dans tout votre pays. C'est écrit dans le livre de Vayikra, au chapitre 25. C'est-à-dire, la Torah dit en toutes lettres qu'il faut sonner du shofar une fois tous les 50 ans à Kippour. Nous, on ne sonne pas du shofar à Kippour du tout. On sonne du shofar à Rosh Hashanah. À la fin de Kippour, on le fait en souvenir du Yovel. D'ailleurs, si vous demandez à des chilonim, à des non-religieux, quand est-ce qu'on sonne du shofar? Ils ont tous à Kippour. Si vous leur dites à Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah aussi. Maintenant, si vous demandez aux religieux quand est-ce qu'on sonne du shofar pendant l'année, ils vous répondront à Rosh Hashanah. Problème de savoir qui a raison. Est-ce que c'est les chilonim ou les datim qui ont raison? Oui. Quoi? Oui. Il est explicite dans la Torah qu'il faut sonner du shofar à Kippour une fois. Lors du dixième jour du septième mois, qui est Tishri, effectivement. C'est donc Kippour. Kippour. Bien sûr, c'est dans le septième mois de l'année. Tishri, c'est le septième.
C'est 7 mois avant.
Non, 6 mois avant.
6 mois avant.
Oui, alors, quel problème? Non, ça n'a rien à voir. Le début de l'année, c'est à Nissan. Rosh Hashanah, c'est le septième mois. Comment ça se fait qu'il y ait un début de l'année au milieu de l'année? Ça, c'est un autre problème. D'accord? Mais, en tout cas, les datim sont persuadés que c'est à Rosh Hashanah qu'on sonne du shofar, les chilonim sont persuadés que c'est à Kippour. D'ailleurs, ils se dépêchent vite dans leur voiture, le Kippour après-midi, vite, avance, plus, dépêche-toi, parce que nous allons manquer l'année Ila. D'accord? Surtout avec tous ces vélos qui font des embouteillages. Maintenant, le problème de savoir qui a raison. Fondamentalement, c'est les chilonim qui ont raison. La sonnerie du shofar, idéale, c'est celle de Kippour de l'année du Yovel. Celle que nous faisons à la fin de Kippour, c'est simplement un souvenir, c'est un folklore, si vous voulez. Mais d'où est-ce qu'on a tiré qu'il faut sonner du shofar à Rosh Hashanah? La réponse, c'est qu'on l'a appris par la Gezerah Shava, par un des 13 modes d'étude de la Torah. Il y a un des 13 modes d'étude de la Torah qu'on appelle la Gezerah Shava, qui fait que l'on déduit du shofar du Yovel qu'il faut sonner du shofar aussi à Rosh Hashanah. Donc quand nous sonnons du shofar à Rosh Hashanah, en fait c'est une dérivée du shofar du Yovel. Est-ce bien clair? Comment? Parce qu'il y a une Gzera Shava, Chodesh HaShivi'i, Chodesh HaShivi'i, de même que lors de la sonnerie de Kippour, c'est par un shofar, donc la sonnerie qui est mentionnée pour Rosh Hashanah se fait aussi par un shofar. Le shofar, comme vous le savez, est un mauvais conducteur. Maintenant, ce qui était une vanne stupide. Maintenant, pour ce qui est de Rosh Hashanah, donc quand nous sonnons du shofar et que nous écoutons le shofar à Rosh Hashanah, en fait, c'est une dérivée d'un autre shofar qui est le shofar du Yovel. Donc, je reviens à ce que je voulais prouver, ce qu'il fallait démontrer, CQFD, c'est que le shofar, enfin, c'est que toute cette période est une période de liberté. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça la période de la Teshuvah? On devrait appeler ça la période de la liberté. Exactement. La Teshuvah est un acte de liberté. Tant que je n'ai pas fait Teshuvah, je suis emprisonné, je suis asservi. Asservi à quoi? À mon Yetzerara, à mes passions, à mes fautes qui alourdissent ma personnalité, qui empêchent ma Neshama de s'exprimer en pleine liberté. Donc je fais teshuva pour retrouver ma liberté. Or, comme la période est une période libre par essence, donc c'est ça qui fait que la teshuva est plus facile dans cette période-là. Oui? Quelqu'un qui fait teshuva, oui, un chozer b'tshuva, alors? La teshuva n'est pas quelque chose qui est lié forcément au péché. D'accord? comme nous avons vu dans les cours sur Ilhot Teshuvah. La Teshuvah, c'est une nostalgie. Je suis attiré par ma nostalgie de l'infini, de mon Père qui est au ciel. J'ai ce qu'on appelle un languissement métaphysique. Je suis appelé vers le haut. Et puis, quand je remonte vers le haut, je me rends compte que mes péchés m'empêchent de monter. Alors, je me libère de mes péchés. D'accord ? C'est-à-dire, la teshuva n'est pas le retour au mitzvot. Le retour au mitzvot est la conséquence de la teshuva. Puisque je fais teshuva, donc je répare mes fautes. D'accord ?
On en revient au fait qu'il y a bien un temps qui marque chaque chose. Donc, c'est-à-dire que le temps est propice comme le temps est propice.
Oui, mais on a expliqué pourquoi est-ce qu'il était propice. D'accord ? Bon. Maintenant, j'ai un petit problème. Oui ?
Puisque la symbolique a été prise sur les esclaves qui ont la liberté.
Oui ?
C'est 10 jours. Est-ce qu'on peut comprendre par là que nous-mêmes, n'étant pas institutionnellement esclaves, quelque part nous le sommes par nos fautes ?
Oui, oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'esclavage de la faute. Et l'expression du Rav Kook qui est Avdut Retit. L'esclavage du péché. Le péché alourdit la personne. C'est comme un boulet dont il faut se libérer. Maintenant, j'ai un petit problème dans tout ce que je viens de dire. On retrouve dans cette période, donc aussi bien Rosh Hashanah qu'à Kippour, on retrouve l'élément du shofar. Maintenant, à quoi ça sert un chauffard ? Dans l'Antiquité, le chauffard servait à deux choses. Soit comme une sonnerie d'alarme, c'est-à-dire s'il y avait un ennemi qui s'approchait, les gardes de la cité sonnaient du chauffard pour avertir qu'un ennemi s'approche. C'est pour ça que les prophètes disent « Haïtaka chauffar ba'ir ve'am le'heradou » sonnerait-on de la corne dans la ville et le peuple ne serait pas pris de tremblement, parce que c'était le moyen, c'était la sonnerie d'alarme. D'accord ? Hein ? Tsevad. Autre utilisation du chauffard, c'était quand on couronnait un roi. Quand on proclamait quelqu'un comme roi, on sonnait du chauffard et on disait « Vive le roi !» Donc, le chauffard, si vous voulez, représente quelque chose qui est exactement le contraire de la liberté. Si je me mets un roi à ma tête, donc je prends quelqu'un, je nomme quelqu'un pour me dominer. Donc c'est pas du tout approprié, le chauffard pour un jour de liberté, alors que c'est un signe de couronnement du roi. D'ailleurs, le jour de Rosh Hashanah, dans les prières, on revient tout le temps là-dessus, que c'est le couronnement de Dieu. Ce qui revient très souvent, c'est Amelech HaKadosh, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melech Olam Vahed, tout ça. On reçoit la royauté divine. Or, on a dit tout à l'heure que c'était un jour de liberté. C'est donc malvenu. Est-ce que la question est claire ? La question est claire ? Oui ? Sûr ? Bon. Vous voulez la réponse ? On va vous la donner. Hein ? Quoi ? C'est ça. Mais j'irai plus loin que ça. D'abord, le fait d'être libre, c'est ça qui permet d'accepter une royauté. Parce que le bon Dieu n'est pas intéressé à régner sur des esclaves. Donc il faut que nous soyons totalement libres pour qu'il puisse régner sur nous. Mais ça va plus loin. Disons que même on pourrait dire que c'est le problème gigantesque de la civilisation actuelle. Vous savez que nous vivons dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'affrontement des civilisations. C'est une idée d'un auteur américain, Huntington, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'affrontement des civilisations ». Pourquoi est-ce qu'il a donné ce titre à son livre ? Parce que c'est ça dont il parle, de l'affrontement des civilisations. Il y a aujourd'hui, sur le globe terrestre, un affrontement entre deux grandes civilisations, l'occidentale et l'islamique. Hein? J'ai rien compris. Oui, l'islam, pourrait-on dire, représente de manière concentrée l'opposition aux idéaux de l'Occident. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et cette opposition n'est pas simplement pour la puissance. Il y a ici quelque chose au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs, c'est que l'Occident a reçu en héritage de la philosophie grecque cette idée que c'est l'homme qui est le centre du monde. Et Dieu, s'il existe, il est dans la périphérie. Dans cet ordre d'idées, le régime politique idéal, c'est la démocratie libérale. Une dérivée de la démocratie libérale, c'est la tolérance. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous êtes véritablement libre, vous devez tout tolérer. Dans la mesure où il existe, il est dans la périphérie, il se met de côté. Il a laissé le champ libre à l'homme. D'accord? Ça, c'est l'enseignement de la philosophie grecque reçue par l'Occident. Hein? Oui. Le choix, la liberté. Pour l'islam, ce que je viens de dire est une énorme hérésie. Quelque chose d'horrible. Comment il y aurait quelqu'un d'autonome alors que c'est Dieu qui est le maître? Allahu Akbar. C'est Allah qui est le plus grand de tous. Il est le plus fort. Et on ne peut que se soumettre à sa toute-puissance. Donc c'est Dieu qui est au centre et c'est l'homme qui est dans la périphérie. Et donc toutes ces histoires de démocratie, de liberté, etc., c'est horrible pour une mentalité islamique. Et donc cet affrontement est un affrontement inévitable, étant donné qu'il s'agit d'un affrontement de valeurs. Ça ne peut pas se réconcilier. Alors qui c'est qui va gagner? Ben, c'est nous. Parce que nous avons un modèle à proposer aux uns et aux autres qui va les réconcilier. Ils vont trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce que dit le judaïsme? Est-ce que c'est Dieu qui est au centre ou l'homme qui est au centre? C'est le dialogue entre eux qui est au centre. C'est-à-dire, le monde est un lieu de rencontre. Il y a une collaboration de l'homme à la création. Et c'est la raison pour laquelle il faut que l'homme soit véritablement libre dans son être pour accepter la royauté de Dieu. Et donc, c'est donc si le jour où Dieu veut régner, eh bien il faut que les hommes soient libres. Donc ils doivent faire teshuva. Il y a par exemple un midrash intéressant sur la manière dont l'homme a reçu le feu. Vous savez que dans la mythologie grecque, d'où vient le feu? C'est Prométhée, n'est-ce pas, qui a volé le feu aux dieux et qui l'a donné aux hommes. Il en a été puni. C'est-à-dire la réussite de l'homme sur le plan technologique, qui commence par le feu, est une révolte contre la divinité. Le Midrash raconte à sa manière comment est-ce que l'homme a reçu le feu. Vous connaissez le Midrash? Le Midrash est superbe. Il nous raconte que Adam Harishon, après, à la fin du Shabbat, a vu que l'obscurité arrivait. Il s'est mis à pleurer. Il s'est dit, à cause de moi, le monde est plongé dans les ténèbres. Le bon Dieu, voyant sa détresse, c'est difficile de pleurer avant la création du monde. C'est difficile de pleurer si on n'a pas d'âme. Les hommes des cavernes, les homo sapiens, etc. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui est important ici, c'est l'image que donne le Midrash. Et le Midrash nous dit que Dieu dit à Adam Harishon, tiens, prends ces deux pierres, frotte. Il a frotté et le feu est apparu. Remarquez, ce Midrash est très important parce qu'il veut dire deux choses. Tout d'abord, que Dieu est intéressé à la réussite de l'homme. Il veut lui donner le feu. Mais non seulement il veut donner le feu, il ne veut pas lui donner une torche allumée. Si déjà tu es sympa, donne un feu allumé. Non, il veut que l'homme participe à la création de ce feu. C'est-à-dire qu'il y a un accomplissement de la création du monde par l'œuvre de l'homme. Maintenant, je commence à comprendre un midrash, un autre midrash, que je n'avais pas compris au début. Le midrash demande pourquoi est-ce que pour libérer les esclaves, il faut sonner du shofar. C'est-à-dire, quand est-ce que les esclaves sont libérés à Kippour du Yovel? Après qu'on ait sonné du shofar, ils s'en vont. Le midrash dit, Amar Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a dit, Hamlichuni alechem beshofar shel cherut. Faites-moi régner sur vous par un shofar de liberté. Ce qui est paradoxal, puisqu'on avait dit qu'un shofar, c'était un couronnement. Mais c'est un couronnement en pleine liberté. Ça, c'est donc le premier élément de compréhension de la chose. Mais je veux aller plus loin. La différence qu'il y a entre une domination par tout être, de la domination par Dieu, c'est fondamental. Quand je suis dominé par quelqu'un, par exemple, par mes parents, mes maîtres, la loi, l'État, la nature, toutes ces choses qui me dominent, j'ai un problème avec ces choses qui me dominent. Vous savez quoi? C'est qu'elles sont extérieures à moi-même. Il y a quelqu'un de l'extérieur qui me dit ce que je dois faire. Fiche-moi la paix. Moi, je veux faire ce que moi, je veux. Je veux être fidèle à moi-même. Donc, toute autorité porte en elle un problème. C'est-à-dire, l'autorité m'impose quelque chose qui n'est pas vraiment moi-même. Mais, quand c'est l'autorité de Dieu, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que Dieu est également le créateur. Puisqu'il est le créateur, il est l'origine de ma propre vie. Donc, quand j'accepte sa domination, je rencontre ma vie. Donc, je suis fidèle à moi-même. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda Halevi disait « Avde zeman avde avadim hem, eved Hashem ou levado chofshi » Les serviteurs du monde sont des esclaves d'esclaves, tandis que le serviteur de Dieu est véritablement libre. Il est le seul à être libre. D'accord? Oui? Oui, vas-y. Que? Parle sans crainte, hein. Quand j'accepte la domination de Dieu, c'est la domination de celui qui est à mon origine. Donc quand je le rencontre, je ne me sens pas asservi, je me rencontre moi-même. On est quoi? Ça dépend comment est-ce qu'on accepte les mitzvot. Ça dépend comment j'accepte les mitzvot. Si j'accepte les mitzvot comme étant quelque chose d'imposé, donc c'est quelque chose d'insupportable. D'accord? Mais si je comprends que les mitzvot me mettent en contact avec celui qui m'a créé, donc je me retrouve moi-même à travers les mitzvot. Par exemple, il y a un texte du Maharal assez surprenant. Il demande pourquoi est-ce que la Torah n'a pas révélé que la raison de la fête de Shavuot, c'est parce que la Torah a été donnée. Ce n'est pas écrit dans la Torah. Que Shavuot, c'est parce que la Torah a été donnée. Le Maharal dit parce qu'on ne peut pas fêter quelque chose d'imposé. Or, la Torah nous a été imposée, donc ce n'est pas la fête. C'est seulement quand c'est librement consenti que je peux m'en réjouir. D'accord? Ah oui? Ah oui? Ah oui? Absolument impossible ce que tu dis là. Parce que, étant donné que moi je ne suis pas toi et que toi tu n'es pas moi, quand toi tu accomplis une mitzvah, c'est pas du tout comme moi. C'est vécu autrement, il y a une interaction entre la mitzvah et la personne. C'est-à-dire la résonance que ça a chez moi est tout à fait différente de la résonance que ça a chez toi, étant donné ton équation personnelle. Eh oh, on rit. Allez. Par exemple, moi je mange de la matzah à Pessah. Toi aussi tu manges de la matzah à Pessah. Mais est-ce que c'est la même chose? Non, c'est vécu par moi et toi c'est l'autre, et là c'est vécu par toi, donc c'est autre chose. D'accord? C'est vrai pour toutes les expériences de la vie en vérité, chacun de nous est unique en son genre. Dire, il n'y a que moi qui est capable d'être moi. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Il y a une expression très belle dans la prière de Kippour qui dit « Atchelo notzarti et nikedai ». Vous connaissez cette prière? Tant que je n'ai pas été créé, ça ne valait pas la peine. Le Rav Kook explique « Combien de temps s'est-il passé jusqu'à ce que je sois créé ?» Beaucoup de temps, n'est-ce pas? Les scientifiques disent quelque chose comme 15 milliards d'années. 15 milliards d'années se sont passées et je n'ai pas été créé. Bizarre. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on n'avait pas besoin de moi. La preuve, c'est parce que si on avait eu besoin de moi, j'aurais été créé. Et donc ça prouve que puisque maintenant j'ai été créé, ça veut dire que j'ai un rôle à remplir. Il y a un sens à mon existence. Oui ? Si on va selon la théorie du Big Bang. Hein ? Pas de problème. Oui, c'est un problème scientifique. Une question de scientifique. C'est la théorie dominante aujourd'hui chez les scientifiques. Alors pourquoi ne pas l'accepter, après tout ? Maintenant, on peut donner d'autres définitions, mais dans l'ensemble, ça tient bien la route.
Ça veut dire qu'il y a 15 milliards d'années, il ne faut pas aller à la frontière, quoi.
Quelle est la question?
Il faut pas pousser jusqu'à la frontière du début des 15 milliards d'années.
Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça, c'est déjà plus difficile.
Il y a des scientifiques qui ont fait ça, et ils n'arrivent pas à l'expliquer. J'ai vu un documentaire.
Oui, bon, peu importe. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que les théories scientifiques sur l'origine du monde sont... Quoi? Oui, alors justement, c'est là l'erreur classique d'essayer de donner des preuves scientifiques de vérité théologique. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Peu importe, mais ça c'est une question, mais c'est pas un sujet scientifique. L'existence de Dieu, son non-existence, ça n'a rien à voir avec la science. D'accord ? Ça peut avoir quelque chose de tangent, il peut avoir quelque chose de proche, mais il peut jamais avoir identité. D'accord ? Donc peu importe cette histoire, ce que je veux dire c'est que ce qui est important pour moi, c'est la prière qui dit « Jusqu'à ce que je sois formé, ça ne valait pas la peine. » Mais j'ai été formé. Donc, ça veut dire que j'ai un rôle à remplir. D'accord ? Maintenant, la suite de la prière est tragique. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Je vous l'ai dit ? Dans la suite, il y a écrit « Ve'archav shelo notzarti ki ilu lo notzarti. » Et maintenant que j'ai été créé, c'est comme si je n'avais pas été créé. Oh, horrible. Bien sûr, c'est parce que quand je viens parler de mes péchés. Si j'ai fait des péchés, ça veut dire que je n'ai pas été fidèle à mon rôle. D'accord ? Mais étant donné que je viens faire teshuva, rétroactivement, je viens donner un sens à mon existence. D'accord ? Vous savez qu'on dit « j'ai été créé » en hébreu. « Notsarti ». N'est-ce pas ? Hein ?« Notsarti », ça veut dire « j'ai été créé, j'ai été formé ». Et l'expression dans le texte de la prière, c'est « Archav chez Notsarti, kilou lo Notsarti ». Maintenant que j'ai été créé, c'est comme si je n'avais pas été créé. Mais les Juifs en Espagne, à l'époque des Maranes, ajoutaient dans ce texte une autre intention. Le mot « Notsarti » est à rapprocher du mot « Notsri », qui veut dire « chrétien ». Et ça vous disait « Tant que je n'ai pas été christianisé, je ne valais pas la peine. Mais maintenant que je me suis christianisé, c'est comme si je ne m'étais pas christianisé. » D'accord ? C'était une sorte de plaisanterie tragique au temps de la persécution. D'accord ? Bon. Oui. Bon, donc en fait, nous avons ici une clé très importante pour comprendre comment est-ce qu'on fait Teshuvah. On fait Teshuvah par amour de la liberté. C'est la raison pour laquelle on se libère à Rosh Hashanah, non seulement des péchés, mais on se libère même de la Teshuvah. On se libère même de la Teshuvah. Comment? C'est très simple. Dans les jours qui précèdent Rosh Hashanah, on fait des slichot. Dans les slichot, on fait Teshuvah sur ses péchés. Arrive Rosh Hashanah, on arrête les slichot. Il est interdit de faire le vidouille à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on veut se libérer de l'emprise de la Teshuvah. Le fait de faire Teshuvah est une chose très importante. Mais il y a un prix à payer. C'est que ça restreint le champ de ma vie. Je m'occupe tout le temps de moi-même. Ce qui est en soi un péché. Alors arrive le jour de Rosh Hashanah, et les prières parlent de quoi? Les prières ne parlent pas des péchés. Les prières parlent de la création du monde, de la sortie d'Égypte, de la révélation du Sinaï, du rassemblement des exilés. Il y a même des allusions à la résurrection des morts. On parle de grandes choses, des choses idéales. Et on dit à l'homme, aujourd'hui tu vas t'occuper, non pas de toi-même, tu vas t'occuper de grands idéaux. Et alors là, tu vas arriver à une sphère de liberté totale, parce que tu vas pouvoir enfin t'occuper de choses sérieuses. Une fois que tu auras fait ça, tu vas continuer la période de Teshuvah, mais tu vas te rendre compte que tes péchés sont très petits à tes yeux. Tu n'es plus intéressé au péché. Et donc la Teshuvah devient facile. Et on arrive à Kippour avec les énergies nécessaires pour réparer tous les péchés. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Parce que vous avez une interro sur tout ce qui a été dit là maintenant. Vous ne voulez pas sortir une feuille de papier, voir, hein? Non, on va renoncer parce que vous avez quand même été attentif. Oui? Oui. Pourquoi? Bah, tout le travail de Rosh Hashanah. Bah, il y a les prières, il y a le chauffard, il y a les repas. Quoi? Après le repas, quoi, le soir? Alors, il y en a qui font la lecture des Tehillim jusqu'à Mincha. Il y a aussi le Tashlich. D'accord, ça fait pas mal de, il y a pas mal de boulot. On n'a pas une minute de libre en vérité à Rosh Hashanah. Il peut pas faire Tehillim, il peut étudier. Mais ce qu'on veut, c'est pas à Tisha B'Av, il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'étudier, mais à Rosh Hashanah, tu peux dire ce que tu veux. Alors, on dit qu'il ne faut pas dormir à Rosh Hashanah, mais c'est difficile. D'accord? Mais on peut très bien. C'est pour ça que certains disent le Tehillim, certains ne dorment pas, certains disent que l'après-midi, on peut, si on est très fatigué. Voilà. Mais quand on est jeune comme toi, tu as toutes les énergies nécessaires pour ne pas dormir. Il ne faut simplement pas trop manger. Ah. Bon, oui? Quand on avertit d'un danger militaire.
Excusez-moi, c'est ma question. J'ai noté, moi. C'est si tu nous as écouté le chauffard en Rosh Hashanah, nous le savons, puisque ce n'est pas marqué à la Torah.
Nous le savons à partir du chauffard du Yovel. Du Yovel. Si je pêche. Si j'ai des péchés.
Parce que j'ai péché.
Oui? Oui, mais c'est pour ça que je fais Teshuvah, pour redonner un sens à ma vie. D'accord? Oui?
Est-ce que les deux
personnel.
Oui.
Historique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le, disons, l'élément de, d'un appel à rassemblement?
Oui, ça c'est dans le désert, effectivement. Quand on rassemblait le peuple, on sonnait, mais on sonnait des trompettes. Pas, des, pas du chauffard. Ah, oui. Oui. Oui, bien sûr qu'on est jugé. Puisqu'on est libre, on est jugé.
Mais il y a un problème. Mais, on dit tout ce qu'on veut pour l'année prochaine.
Il y a les deux. On fait des tas de choses à Rosh Hashanah. On a le temps d'être jugé, de demander la bénédiction pour l'année prochaine, etc. D'écouter le chauffard. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à Rosh Hashanah. Voilà, ben, passez une bonne année. À l'année prochaine. Shalom.